Bonjour Mitra et Jazipour.
Bonjour.
Vous êtes une joueuse d'échecs franco-iranienne, vice-championne du monde des moins de 10 ans, championne d'Iran à 19 ans, championne d'Asie à 23 ans. Vous détenez le titre de grand maître international féminin et depuis 2021, vous avez obtenu l'autorisation de concourir au profit de la France. Aujourd'hui, vous publiez La joueuse d'échecs aux éditions Albin Michel. C'est un récit poignant, dévoilant votre force et votre courage, votre talent aussi. Le point de départ que vous abordez dès les premières pages, c'est le championnat du monde d'échecs auquel vous avez participé en 2019 à Moscou. C'est lors de cette compétition qui vous oppose à une Ukrainienne et championne du monde, que vous avez pris la décision de retirer votre hijab, défiant ainsi les autorités iraniennes, ce qui vous a valu d'ailleurs beaucoup de menaces de mort, mais vous étiez déterminée à marquer votre opposition à la République islamique. Ce geste a bouleversé effectivement votre vie, il a bouleversé la vie de vos proches, vous obligeant à choisir une terre d'accueil, mais il a aussi bouleversé le monde entier et inspiré beaucoup de jeunes femmes, autant qu'il vous a valu d'attiser la haine. Pouvez-vous nous raconter ce moment où vous prenez cette décision et ce qui finalement vous donne le courage d'accomplir cette acte fort.
Oui, effectivement, en 2019, c'était le moment où j'ai trouvé le courage pour finalement faire ce geste. Mais après, avec le temps et le recul avec cet événement, j'ai l'impression que j'ai pas fait un geste si courageux non plus. Mais en fait, c'était quelque chose qui, pendant des années, quand j'étais en Iran, c'était quelque chose qui était en train de m'étouffer. Peut-être que ça vous est déjà arrivé que pendant les événements, pendant les choses, vous devez montrer les réflexions, les réactions, prendre une position que vous faites pas. Après, ça reste un petit poids dans votre esprit. Après, ça devient un fardeau très lourd sur vos épaules. Moi, j'avais l'impression que j'avais ce fardeau lourd sur mes épaules et finalement, j'ai décidé de m'en débarrasser.
Vous écrivez, je voulais marquer mon opposition à la République islamique parce que depuis 45 ans, elle vole la vie et la jeunesse de tout un peuple, parce que tant de familles vivent dans la peur et le silence, et parce que j'étais certaine de porter la voix de celles qu'on n'entend pas, il fallait que j'exprime ma colère. Le fait de représenter les autres, on a le sentiment que déjà très jeune, vous en aviez conscience.
Oui, j'étais un peu jeune et je me sentais que, en fait, pour moi, c'était pas un genre de mission. J'avais pas toutes ces pensées. C'était une cause qui me tenait le corps et j'avais l'impression que je dois le faire. Effectivement, mon objectif était de passer un message à tous les jeunes filles en Iran. Que, en fait, j'étais inspirée par une fille qui elle avait enlevé son voile. Elle s'appelait Vida Mouvahed. Du coup, je pensais qu'en partageant mon histoire, en partageant ce moment, peut-être ça peut inspirer les autres jeunes filles.
Très jeune, vous avez compris effectivement que la religion, c'était un sujet très très compliqué. Déjà parce que vous passiez beaucoup de temps chez votre grand-mère et que vous étiez envahie par l'ennui. Et puis d'autre part, parce que même à la maison, vous aviez constaté que votre père râlait régulièrement, enfin en tout cas qu'il avait une crainte, il y avait un mélange de crainte et de colère en lui vis-à-vis de ces personnes qui effectivement gardent la vie de certaines personnes dans leurs mains avec une règle de conduite à tenir. Vous racontez d'ailleurs un jour où l'un des amis de la famille vient et il décide que du haut de vos 6 ans, vous devez porter le voile. On sent toute la déchirure à ce moment-là. C'est important effectivement ce livre aussi pour marquer les mots, pour raconter cette évolution féminine.
Moi je pensais qu'en partageant cette histoire, ça peut être une histoire de beaucoup de jeunes filles, soit en Iran et même en France aujourd'hui. Je pensais que peut-être ça peut gagner du temps en lisant cette histoire. Et oui, en fait, depuis mon enfance, j'ai compris que la religion, c'était une barrière, c'était quelque chose qui ne me lâchait pas, que à chaque moment de ma vie était présent et qui m'embêtait. Oui, quand j'étais petite, depuis mon enfance, comme vous avez mentionné, j'ai très tôt compris que cette cadre que je dois me mettre dedans et qui ne me lâchait pas, que c'était présent dans toute ma vie, oui.
Vous parlez de germes de liberté, d'ailleurs. Vous dites que vous avez eu besoin de féconder, de cultiver les germes de liberté qui vous importaient tant, en racontant effectivement ce morceau de soie qui est si léger, qui avait été pour vous un très lourd fardeau. Ça signifiait quoi, à ce moment-là, le mot liberté pour vous, Mitra?
Le mot liberté, à l'époque, pour moi, ça représentait être moi-même, à m'exprimer comme je veux, à ne pas être dans ce cadre de religion, à ne pas suivre les règles misogynes islamiques. Ça représentait beaucoup, en fait, c'était cet détachement de toutes ces règles islamiques qui étaient autour de moi pendant toute ma vie, qui m'arrachaient tout le temps. Pour moi, c'était ça, la liberté.
Ce geste, il a été très fort, il a été relayé dans le monde entier. Votre sourire a été effectivement un symbole pour beaucoup dans le monde entier. Je voudrais que vous me racontiez ce qui s'est passé après.
Bon, effectivement, pendant la partie, quand j'ai fixé sur la caméra, que j'ai remarqué qu'on m'a pris en photo, que ça va tourner dans les médias, que ça, en fait, je peux finalement faire ce geste, cet acte. En fait, j'étais tellement contente. En fait, je me sentais un peu légère que finalement, C'est déjà fait, mais je vous rassure que c'était pas une décision facile parce que j'ai perdu quand même beaucoup de choses. En Iran, j'ai construit toute ma vie, j'avais eu une carrière, j'étais très connue, j'avais tout ce que j'avais besoin, mais sauf la liberté. Donc, c'était difficile de passer par tout ce que j'ai construit pendant toute ma vie, aussi passer par ma famille aussi, par mon pays et tout. C'était difficile. Et après, quand ça tournait dans les médias, quand j'ai vu que finalement mon message est passé, c'était un soulagement pour moi.
Je voudrais que vous me parliez de vos parents, parce que les premières personnes auxquelles vous avez pensé en faisant ce geste-là, c'était vos parents. Vous imaginiez les larmes de votre mère, le sentiment de honte aussi, vous le racontez d'ailleurs, et vous avez été assez surprise de leur réaction.
Oui, effectivement, parce que c'était pas si évident à l'intérieur de l'Iran, même à côté de ma famille, parce qu'ils étaient surpris quand ils ont entendu cette nouvelle. Après, ma mère était très sensible et après, quand elle a compris que je ne peux plus y retourner, elle était très émue. Effectivement, j'ai pensé à elle, j'ai pensé à ma famille aussi, mais en fait, je ne pouvais pas rester. Je devrais faire quelque chose finalement. Mais c'était un moment très difficile que j'ai passé, oui.
Ce qui est assez fou, c'est que quand on découvre votre histoire et cet ouvrage, on se rend compte de la force et du lien que vous aviez avec votre père. C'est vrai que votre père vous a tout donné, il vous a appris à écrire. D'ailleurs, il s'est fait un peu, de temps en temps, gronder par votre mère qui trouvait qu'il ne vous laissait pas assez vivre votre vie de jeune fille. Il avait compris, il avait une carte à jouer avec vous et qu'il fallait qu'il vous enseigne de quoi être libre. C'est lui qui vous donne les clés, en tout cas les premières pièces de l'échiquier, si je peux me permettre. Et vous avez en mémoire, d'ailleurs, ce moment où il joue avec l'un de ses meilleurs amis, Ziad. Son meilleur ami lui ramène un échiquier et vous le voyez évoluer. Vous comprenez qu'en jouant, votre père maîtrise son destin à ce moment-là et vous comprenez que ce destin, il va faire partie de vous.
Je pense que mon père, il a compris que quand il jouait, il prenait son destin à la main et qu'il pouvait choisir ce qu'il voulait faire. Il a très tôt compris que en fait, les échecs, ça peut être un outil qui peut m'aider à sortir de cet cadre. Parce que grâce aux échecs, j'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré différentes cultures. Et je pense que mon père, une fois que le but de Khodadad Azizi, c'est un footballeur iranien, l'Iran contre l'Australie, c'est un événement historique pour l'Iran, il a compris que le sport et les échecs, ça peut être un outil, quelque chose qui peut m'aider à être quelqu'un de différent. Peut-être il a pas compris tout de suite que ça sera dans l'avenir, je deviens championne, mais il avait cette espérance.
Qu'est-ce que vous gardez de lui, de ses années en tout cas d'enfance?
Je suis toujours en contact avec mon père. Au début, quand j'étais plus jeune, j'avais l'impression que j'étais un peu fâchée de lui parce qu'il était un peu strict. Il m'obligeait un peu de suivre les règles et tout, mais tout ça c'était pour
vous protéger.
Pour me protéger exactement, pour que je sois pas en danger. En fait, tout ce que j'ai maintenant, je pense que c'est grâce à lui un peu, parce qu'il m'a initiée aux échecs, ma mère aussi d'ailleurs, elle m'a accompagnée pendant les compétitions. Des années, ça prend du temps. C'est pas facile, mais les deux, mes parents, ils m'ont accompagnée. Et tout ce que j'ai maintenant, je pense que c'est grâce à eux aussi.
Quand on vous voit, Mitra, on voit toujours ce sourire. On voit cette femme imperturbable, avec cette force de caractère. Il faut dire que pour jouer aux échecs, il faut avoir un vrai caractère, un vrai mental d'acier, en plus du talent, vous le souligniez d'ailleurs. Il faut avoir en mémoire énormément de combinaisons, et c'est à vous d'ailleurs à l'instinct de choisir à quel moment vous utilisez plutôt telle ou telle combinaison. Vous dites « Rares ont été les jours heureux de mon enfance que l'insouciance a vite déserté. En Iran, la vie des petites filles ne dure pas, la société tout entière les précipite dans l'âge adulte. » C'est important d'enfouir les fêlures, même si là vous les écrivez, pour continuer à avancer.
Oui, en fait, en Iran, on grandit assez vite en tant que jeune fille, parce que c'est toute la société, toute la pression de la société et tout ce qui arrive autour de vous. Vous êtes obligé de grandir assez vite. Donc oui, c'est important de comprendre que oui, finalement, vous êtes en train de grandir et il faut suivre les règles et tout. Oui, je trouve que c'est important.
Vous écrivez « Depuis l'enfance, je m'étais habituée à la pression de ces instants ». Donc on parle d'échecs là. C'est dans les tournois internationaux d'échecs que j'avais grandi, que j'étais devenue adulte, y sacrifiant ma jeunesse. En même temps, vous avez compris très vite que les échecs, c'était ce qui allait vous amener à la liberté, ce qui allait vous permettre de voyager aussi et de vous accomplir en tant que femme. Je voudrais que vous me racontiez votre première grande victoire d'échecs, même si vous avez eu cette deuxième place à moins de 10 ans, mais déjà, il se passe quelque chose à ce moment-là. En championnat du monde, vous arrivez deuxième, vous n'avez pas encore 10 ans.
Oui, exactement. Je me rappelle quand j'étais petite, première fois que j'ai gagné ce médaille vice-champion du monde, je pensais que je suis née pour ça. J'étais pas très choquée que j'ai gagné ce médaille. Je pensais que c'est normal. Et quand je me rappelle dans mes souvenirs, j'étais pas si choquée. Mais j'avais ce sentiment de fierté. À chaque fois quand je rentrais chez moi, il y avait du monde qui m'attendait. Ils étaient très fiers de moi. Et même à l'école, je me sentais un peu différente. Voilà.
Un peu plus mature. Avec l'expérience, je savais que dans ces épreuves, le plus grand ennemi n'est autre que soi-même. Les conflits intérieurs et l'angoisse rongent l'esprit comme une tumeur et peuvent vulnérabiliser un joueur à chaque instant. Seule une force et une volonté hors normes permettent de surmonter ces peurs et d'échapper au mirage que l'esprit fabrique. Peut-être suis-je moi-même mon plus redoutable adversaire. Ça veut dire que quand vous jouez, quand vous affrontez quelqu'un lors d'une partie d'échecs, vous vous affrontez d'abord vous-même.
Pendant les parties d'échecs, vous devrez rester en silence. Et ces moments de solitude, que vous êtes tout seul avec vous-même, que vous devrez prendre les décisions importantes, que vous devez mener la partie, c'est très compliqué de cadrer vos pensées, que vous ne soyez pas contre vous-même. Et moi, je trouve que c'est... Enfin, j'ai parlé de ces mirages pendant les parties et que c'est une force énorme. En fait, ça peut éviter tout ce genre de choses. Mais les échecs, ça demande beaucoup d'énergie mentale et ces moments de solitude, c'est les moments les plus difficiles quand vous jouez. Parce que quand vous jouez les différents sports, vous avez le droit de crier, de débarrasser cette énergie. Mais quand vous jouez aux échecs, vous devez garder votre visage très poker face pour ne pas montrer les émotions. Parce qu'une fois que vous montrez les émotions, votre adversaire peut en profiter.
Vous racontez la France, ce pays d'exil si cher à votre cœur. Vous parlez de votre mari qui vous solidifie chaque jour, qui vous donne confiance en vous aussi, qui vous donne envie d'avancer. Vous citez un adage iranien qui dit « Le ciel a partout la même couleur ». Mais pour vous, le ciel de Paris est le plus beau et le plus éclatant de tous, car la France vous a ouvert les bras. Je voudrais que vous me parliez de cette France et de ce titre de championne de France qui a marqué une renaissance pour vous.
Oui, bien sûr. C'est une expression iranienne. Ça veut dire que, en fait, à Paris, j'étais bien accueillie, j'ai construit une vie, je mène une vie que je veux finalement. C'est pour ça que je trouve que le ciel de Paris, c'est plus beau qu'ailleurs. Oui, mais c'est vraiment, ça dépend de votre expérience, de ce que vous vivez.
En tout cas, on est très fiers que vous portez les couleurs bleu, blanc, rouge aujourd'hui, les
je
couleurs
suis
de
fière
la France.
Aussi, oui, c'est important parce que, en fait, on m'a donné la nationalité française pour contribuer dans l'équipe nationale féminine. Pour moi, c'est important de contribuer aussi, de donner, d'essayer de contribuer aussi, c'est important.
Le 28 décembre dernier, les protestations contre le coût de la vie ont éclaté en Iran avant que le mouvement prenne une ampleur majeure le 8 janvier, défiant ouvertement la République islamique. Le gouvernement a alors engagé une répression violente qui, selon les derniers chiffres de l'ONG Iran Human Rights, a fait au moins 3400 morts. Mais d'autres estimations font état de plus de 5000 décès. Le blocage d'Internet coupe de nombreuses informations provenant des manifestations iraniennes et le régime tente d'afficher un retour à la normale avec la réouverture des écoles, du bazar de Téhéran et un accès partiel à Internet. Est-ce que vous avez pu obtenir directement des nouvelles d'Iran ?
Effectivement, depuis 28 décembre, le mouvement de contestation a commencé suite à l'appel de Reza Pahlavi. Le peuple iranien a descendu dans la rue. Ils ont escandé à la fin de ce régime. Ils ne veulent plus la République islamique. Et ils appellent le retour de Reza Pahlavi. Et on parle de plus que 12 000 morts. 12 000 Iraniens qui sont tués par ce régime criminel. Ils utilisent les mitraillettes, les armes automatiques. Et c'est une répression sanglante. Et ils ont coupé toutes les voies de communication par crainte de publier les vidéos, les images. Mais malgré tout, les vidéos, les images, les témoignages qui sortent d'Iran, ça montre que les manifestations, malgré toutes les répressions, ça continue. Mais les images, les vidéos sont vraiment bouleversantes. C'est un massacre. C'est un massacre. Et je pense que c'est un crime contre l'humanité. Les Iraniens qui cherchent les corps de leurs proches. Le gouvernement demande, le régime demande l'argent pour chercher le corps. C'est vraiment un crime contre l'humanité. Ça fait 10 jours que je n'ai pas parlé. Je n'ai pas pu communiquer avec ma famille et mes proches en Iran. Mais certains ont l'accès à l'Internet avec Starlink. Mais je pense que la plupart des gens, ils n'ont pas l'accès à l'Internet.
Comment vous vivez depuis la France, où vous avez été naturalisée française d'ailleurs, ces événements, cette impuissance ?
C'est très dur de vivre ça en France parce que je suis très loin et je ne peux pas faire grand-chose. Mais j'essaie de relayer l'information et d'être active sur les réseaux sociaux, de partager les informations. Nous avons besoin d'une action immédiate de la part des forces étrangères, des forces militaires étrangères pour débarrasser ce régime parce que cette répression, c'est vraiment sanglante et ils sont en train de massacrer les gens. Et on voit les vidéos, les images qui sortent. Ils demandent, le peuple iranien demande les aides. Et en fait, à chaque fois que j'entends en France que les interventions militaires de la part des forces étrangères ne marchent pas, on a vu ça en Irak, en Syrie, mais l'Iran, c'est différent. Parce que cette volonté de changer ce régime, cette volonté de ce changement, ça vient de l'Iran. C'est le peuple iranien qui demande l'aide pour débarrasser ce régime. Ils manifestent avec des mains vides contre la mitraillette. C'est bouleversant. Nous avons besoin d'une action immédiate.
L'ambassadeur de la République islamique en France a déclaré au micro de France Inter le 18 janvier dernier que le régime iranien n'a pas de sang sur les mains, que les manifestations étaient pacifiques et qu'elles ont dégénéré en raison de provocations et d'infiltrations venues de l'étranger. Le guide suprême Khamenei attribue d'ailleurs les morts à Donald Trump dans un discours prononcé le 17 janvier tout en affirmant vouloir briser le dos des séditieux. Les manifestants se sentent aujourd'hui abandonnés, notamment par Donald Trump qui leur avait promis une aide avant finalement de s'abstenir. Est-ce que vous pensez que le peuple iranien peut faire tomber le régime à lui tout seul?
Tout ce qui s'est passé aujourd'hui avec ce massacre énorme, on ne peut plus revenir à l'arrière. On ne peut pas vivre avec ce régime. Ce n'est plus possible. Parce que la haine contre ce régime qui existe, les gens sont en colère, ce n'est plus possible de vivre avec ce régime. Je pense que finalement, ce régime va tomber, ils sont vraiment au seuil de l'effondrement. C'est juste une question de temps, soit demain, soit après-demain, soit plus tard. Mais ce n'est plus possible. Si on aura les actions immédiates de la part des forces étrangères, on perd moins de vies. Vous voyez, c'est les gens qui sont en train de perdre leur vie. C'est un massacre. Les paroles de l'ambassade de l'Iran en France, nous avons l'habitude de ces mensonges. Ça fait 47 ans qu'ils sont en train de mentir, de nier toute la réalité. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais après, je suis un peu choquée de donner un tribune à ces gens-là, à ces voyous, à ces gens qui sont les criminels, qui sont les délinquants.
Vous avez fait partie des personnes qui ont justement montré un chemin. Ça vous a coûté de devoir quitter le pays. Si ce régime islamique tombe, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qui va pouvoir permettre à l'Iran de redémarrer et de renaître de ses cendres?
D'abord, débarrasser ce régime, aujourd'hui, c'est devenu comme un rêve. Ils ont tellement ruiné le pays. Nous avons toutes les ressources naturelles, toutes les ressources humaines, financières. Ils ont ruiné tout pendant 47 ans. Donc l'Iran, c'est un terrain vierge pour investir. Nous avons beaucoup de choses à faire. Il y a dans la diaspora iranienne, je vois cette volonté qu'ils veulent retourner en Iran, investir et reconstruire le pays de nouveau. Une fois que ce régime tombe, je pense que tous les problèmes dans le Moyen-Orient et dans le monde entier, ça sera éliminé parce qu'on voit qu'ils sont partout. Mais aujourd'hui, on voit que toutes les conditions pour la chute de ce régime sont réunies. Après la chute de Maduro et aussi le Hamas et Hezbollah sont éliminés, il reste que la tête de cet serpent.
Comment vous gérez la peur?
J'ai toujours peur pour l'Iran, pour tout ce qui va arriver, mais en même temps j'ai cet espoir qui me donne l'énergie pour continuer. Je ne peux pas dire que je peux gérer mon peur, mais je ne le nie pas. Je vis avec ça aussi.
Et les menaces qu'on vous fait, que le pays vous fait, parce que vous représentez justement ce qu'il ne souhaite pas voir?
De temps en temps, je reçois les messages qui ne sont pas très agréables. J'ai pris l'habitude de vivre avec ça.
Et de garder un sourire.
Oui, de garder un sourire.
Je vous ai demandé tout à l'heure ce que signifiait le mot liberté avant de retirer cet hijab et de reprendre votre liberté en main. Aujourd'hui, le mot liberté, il a changé de sens ou pas?
Non, j'ai l'impression que ça n'a pas changé le sens. Mais une fois que j'ai acquis cette liberté, j'ai l'impression que le sens n'a pas changé, mais quand même, je trouve le nouvel objectif, mais le sens n'a pas changé, non.
Puis vous la gardez, quoi, cette liberté. Elle vous est très importante. Merci infiniment, en tout cas, Mitra, d'être passée dans le monde d'Élodie. Mitra et Jazipour, retenez bien ce nom. La joueuse d'échecs, je vous conseille vivement de lire ce récit, voilà, parce que c'est une leçon de courage. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et c'est sorti chez Albin Michel.